Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Roman épistolaire, roman de science-fiction, conte, parabole, sans doute un peu tout cela dans ce livre qui nous incite, grâce à ses multiples éclairages, à réfléchir à ce que nous vivons en ce moment, à notre société telle qu'elle s'est construite et telle qu'elle elle se transforme, et à nos propres comportements, nos propres aspirations, nos propres convictions. Le train d'Erlingen est le titre de ce roman, sous-titré « La métamorphose de Dieu ». Il est édité chez Gallimard et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur Boualem Sansal. Boualem Sansal, bonjour.
Bonjour.
Alors, je me suis d'abord arrêtée sur les dédicaces, poète, philosophe, romancier de différentes nationalités, de grands talents. Vous mettre en écriture et en pensée ?
Oui.
Je les nomme, hein, il faut les nommer les vous-même.
Oui, oui, mais j'ai toujours travaillé depuis mon premier roman avec une sorte, je dirais pas mettre à penser, mais je prends...
Une sorte de panthéon de personnes.
Voilà, ou un auteur simplement qui me semble avoir traité le mieux de la question du sujet de mon roman. Quoi. Comme par exemple dans Le village l'Allemand, il m'a semblé que... qui traite de la Shoah, en particulier de la responsabilité face à l'histoire, que celui qui en a parlé le mieux, c'était Primo Levi. Donc tout le roman est construit autour de la question, si c'est un homme, de Primo Levi. Et ainsi de suite, dans 2084, évidemment, on renvoie immédiatement à George Orwell, 1984. Et là, c'était toute une pléiade. Je voulais aborder tellement de sujets, j'avais une telle ambition avec ce livre, qu'un auteur ne suffisait pas, il fallait en prendre plusieurs.
Et alors, je dis pour nos auditeurs qu'il y a le philosophe Henri David Thoreau, je prononce à la française,
hein, oui, bien sûr,
Charles
oui.
Baudelaire, Franz Kafka, Constantin Virgile Georgiou, Dino Buzzati. Alors, Kafka, à la rigueur, Baudelaire, pourquoi ? C'est un poète formidable, mais par rapport à votre ouvrage.
Baudelaire est plus qu'un poète. Enfin, quoique poète, c'est un peu le sommet de la. Mais il est aussi.
Très libre.
Oui, voilà. Pourquoi lui ? Mais plein de raisons, parce que c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé, mais là, en l'occurrence, avec son poème « Les aveugles », dont on tire un troisième sous-titre, là. C'est « Que regarde-t-il au ciel, tous ces aveugles ?»
Le sous-titre de votre ouvrage étant « La métamorphose de Dieu ».
Voilà. Oui. Et sur le bandeau, il y a donc le poème de Baudelaire, enfin, un vers de « Les aveugles ». C'est aujourd'hui, voilà, c'est nous, les hommes, nous sommes aveugles face à... Voilà, le monde se transforme, se métamorphose sous nos yeux. Nous sommes au bord du précipice, il y a des dangers partout qui explosent tous les matins. L'humanité vit dans une souffrance de plus en plus grande, considérable.
Je vous arrête là, parce qu'on en reparlera aussi encore. Vous dites une souffrance de plus en plus grande. Moi, j'ai le souvenir de mes ancêtres. Certains ont eu des vies terribles, terribles.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais nous parlons pour nous.
Oui.
Voilà.
Oui.
Parce que nous, quand on regarde les souffrances passées, elles nous paraissent effectivement terribles. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une superposition de. J'ai l'impression, par exemple, que nos ancêtres n'ont jamais souffert que d'un problème à la fois.
Alors, vous allez mettre en cause, je vous rejoins, les médias.
Encore une fois, ils sont responsables.
Donc, peut-être qu'on est informé de trop. Écoutez, un accident en Chine, on apprend une quantité de morts. Bon, c'est vrai qu'on est effondré, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui.
Ça participe de la souffrance. C'est que nous souffrons de ne pas pouvoir agir aussi. Donc nous souffrons parce que nous sommes affectés.
Oui.
Ces mêmes souffrances. Aujourd'hui, c'est un avion qui tombe en Chine, mais demain, c'est peut-être là à côté de nous.
Oui, mais on a trop d'informations.
On a trop d'informations.
Alors, quand je dis ça, je fais bondir des gens. Savez-vous, Boualem Sansal, je dis, mais non, on n'a jamais trop d'informations.
C'est-à-dire qu'on a des informations en vrac. Elles ne sont pas traitées, ne sont pas digérées, donc on ne s'est pas relativisé.
Oui, c'est vrai que l'héritage de Laetitia Hallyday, on s'en fiche, on est bien d'accord.
Par exemple, il y a tout ça. Et c'est que Dans le passé, les gens ne souffraient, me semble-t-il, que d'un problème à la fois. Par exemple, dans cette région, il y a la famine, il y a que ça, quoi. Mmh. La famine, avec les maladies qui vont avec, mmh. la peste et tout ça. Mais aujourd'hui, donc, on souffre de ça, on souffre des guerres, on souffre de la pollution, de réchauffement de la climatique, oui. ouais, une accumulation de alors que nous vivons dans des sociétés qui nous dorlotent et qui nous ont fragilisés. Donc on souffre d'autant plus.
Mais alors est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable aussi de voir les côtés positifs de nos vies à tous?
Ben si, on
parce qu'on est dans... Vous-même l'avez dit d'ailleurs, les Français, les pauvres Français se plaignent beaucoup. C'était un auteur africain que j'aime beaucoup, Mabankou, qui m'a dit, ah oui, en riant, vous le connaissez, ouais. qui dit en riant, ben oui, les pauvres Français, comme vous êtes à plaindre. Bon, et c'est vrai que parfois on est ridicule.
Oui. Oui, mais c'est une souffrance. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on entend un Français se plaindre et dire oh, on souffre de ceci, on dit bon, on a envie de lui répondre. Écoute, viens oui. passer une petite semaine en Afrique chez nous, et puis on en reparlera. Tu vas retourner chez toi et dire oh là là, oui. c'est le paradis. On n'a plus le droit de nous plaindre. Mais on comprend que voilà, lui, il a été conditionné de cette façon-là.
Oui.
Donc on peut comprendre que sa souffrance et
Alors revenons donc. Alors ce qui m'a amusé, Jean Giou, on en reparlera. Dino Buzzati, oui, ce magnifique livre, Le désert des Tartares, magnifique. Cet ennemi qui ne vient pas. Et Jacques Brel l'a mis en musique.
Oui, oui, bien sûr.
Magnifiquement, hein. On ouais, l'appelle ouais. Zangra.
Oui, oui, oui. C'est oui le. Giorgio Buzzati a traité le problème de la peur un peu du futur, la peur d'un ennemi hypothétique
oui.
qu'on ne connaît pas,
qu'on ne voit
si
pas.
C'était le diable.
C'est alien.
C'est oui, absolument.
Ouais.
Et donc se crée une culture comme ça, très très bizarre. On y croit sans y croire, donc en l'occurrence dans ce roman, on attend cet ennemi, on se dit un jour il va venir nous attaquer, nous exterminer, mais on sait très bien qu'il ne viendra jamais, parce que des siècles sont passés, il n'est pas venu, pourquoi viendrait-il demain matin?
Oui.
Mais voilà, c'est qu'un jour il vient quand même.
Il vient quand même. Alors, il y a deux auteurs anonymes, bon, ils resteront anonymes, vous ne voulez pas en parler?
Mais ils sont anonymes parce qu'on ne les connaît pas. Je fais référence.
Ainsi qu'à deux auteurs anonymes. Ah bon, alors attendez.
Et, là, vous faites référence à par exemple, à ce livre, Le traité des trois imposteurs,
ah, oui,
qui est écrit par. Bah,
oui.
Je ne sais pas, c'est une histoire qu'on traîne depuis à peu près l'an 1000. Et on l'a traîné jusqu'au quasiment au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. On parlait d'un livre que personne n'a jamais vu, qui traite de quoi, on ne sait pas.
Oui,
on
oui,
ne connaissait pas le titre,
d'accord.
On a fini par inventer ce titre.
Voilà les anonymes, d'accord.
Voilà, les anonymes.
En épigraphe, vous nous avez posé la question, posez-vous la question, suis-je libre? Alors je me suis dit, êtes-vous libre, Boualem Sansal? Vous sentez-vous libre?
Pas vraiment. Il me semble que je suis en chemin de... La liberté, d'abord, on ne sait pas ce que c'est. C'est plus une idée qu'une réalité. Donc, il me semble que par rapport à beaucoup de gens que je regarde vraiment comme prisonniers d'un système et prisonniers d'eux-mêmes, hein, ils sont même au point d'être totalement conditionnés, il me semble être quand même dans un état de liberté plus grand. Mais il me semble quand même être loin du but.
Alors, le résumé de votre ouvrage, un train devrait venir dans une petite ville d'Allemagne pour sauver la population qui s'inquiète de la progression inexorable, semble-t-il, d'un ennemi totalement inconnu. Alors on parle d'une désagrégation planétaire, l'attente est angoissante et fiévreuse. Alors qui est la narratrice? Il y a deux narratrices finalement. Alors parce que là vous avez fait un mélange, enfin une juxtaposition très intéressante. Vous voulez avoir des points de vue différents, je suppose?
Oui. Sous différents angles. Hein. Donc, Allemagne et France, déjà. Donc, c'est une vision de l'Occident. L'Occident, on va dire qu'il est surtout déterminé par des pays européens. C'est eux qui ont. La notion d'Occident est née ici, en Europe. Hein, et Et donc les deux grands pays européens qui sont le moteur de cette Europe, c'est la France et l'Allemagne, qui sont très différents à tout point de vue, hein, donc culturellement, même sur le plan religieux, c'est assez différent là. Voilà. Et l'Allemagne riche et la France l'est encore, mais dans
beaucoup moins
et dans beaucoup de difficultés. Leur histoire n'est pas la même. Mmh. Par exemple, la France est un pays qui a fait venir des émigrés. C'est constitué de cette manière, par des apports extérieurs qui arrivent et qui se fondent dans le creuset national, sa forme.
Et qui existe, un pays qui existe depuis longtemps, contrairement à l'Allemagne, dont l'unité s'est faite tardivement.
Oui, alors, la France s'est faite sur l'immigration, voilà, qui arrive dans un creuset, et ça a créé une identité commune. En revanche, l'Allemagne s'est créée sur les migrations. C'est des tribus allemandes qui ont émigré ou qui sont parties à la conquête d'eux. Les Francs sont venus en France, et ben, ils ont conquis la France, et ça a donné, c'est comme ça qu'on a appelé, on a donné le nom de l'envahisseur au pays. Les Angles, la tribu des Angles, bah, qui partait au Royaume-Uni, qui a formé l'Angleterre, la partie sud de... Les Saxons, les Visigoths qui ont fait l'Espagne, les Goths qui ont fait la Suisse et l'Italie, les Vandales qui ont vandalisé tout le monde.
Oui, oui.
Donc l'Allemagne s'est faite comme ça, de manière brutale, des émigrations massives, souvent violentes, et des conquêtes.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
C'est pas du tout la même morale, c'est pas du tout
Oui. Ça ne peut pas être le même état d'esprit, effectivement. Voilà. Alors, bon, pour nous raconter cela, il y a deux femmes, et la première, parlons-en, parce que Ute von Ebert, c'est une femme, donc, âgée, richissime. Alors, ce choix est étonnant parce que, dans le fond, vous racontez comment se crée et se déploie, c'est un empire colossal. Et ça, c'est également très intéressant dans cette partie, parce qu'en fait, il y a plusieurs histoires dans votre roman.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Une fortune immense, au départ des biscuits Ebert, respectabilité acquise malgré pas mal de turpitudes, mais avec le temps, on oublie vite et reste l'argent. Une personne intéressante, très vive, atypique. Elle a l'esprit fin. Elle est sympathique, cette femme.
Oui, comme le sont souvent les héritières ou les héritiers des grands empires. Bon, ils sont nés évidemment dans le luxe, ils ont tout eu.
Mais avec une grande lucidité quand même.
Absolument. Être riche n'interdit pas d'être lucide, ni même d'être, humaniste, hein, donc
ça
peut aller ensemble, on se convertit au cours de sa vie. Oui. Et donc elle est là, et elle a pris sa retraite dans sa ville natale, qu'elle gère de manière comme ça, sous la table. Elle met beaucoup d'argent dans les activités de la ville. Et puis, bon, voilà, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas trop, cette ville est encerclée par un ennemi qu'on ne sait pas nommer, que personne n'a jamais vu.
Alors vous savez, c'est une ville donc en Allemagne, et je sais que vous connaissez bien l'Allemagne, parce que dans un premier temps, je me suis dit, c'est curieux, maintenant vous venez de nous expliquer pourquoi aussi, certainement, mais je me suis dit, c'est drôle, l'Allemagne envahit, nous on a l'habitude plutôt en France que ce soit nous qui soyons envahis par l'Allemagne.
Ouais.
Alors je me suis dit, tiens, c'est l'inverse. Et puis, ce n'est plus Deutschland über alles, là. Alors, est-ce qu'il y a ça aussi qui entre en ligne de compte? Peut-être pas. C'est peut-être moi, ce sont les lecteurs qui trouveront.
Qui jugeront, mais on ne sait pas, c'est que cette histoire-là s'arrête brutalement. On ne sait pas ce qui va advenir. Donc, la ville a l'impression d'être encerclée, qu'elle va être envahie, tuée. Ils attendent un train qui va venir les sauver, qui ne vient pas, et l'histoire s'arrête là.
Ouais, ouais.
Et on passe à une autre histoire. Et donc voilà, le lecteur imaginera ce qu'il veut.
C'est une manière très onirique presque d'en parler. Pourquoi cette manière? C'est intéressant aussi le point de vue de l'écrivain.
Pas vraiment, je veux dire que ça s'impose quand on se lance dans des... raconter des histoires de ce type, ça a l'air d'être très mystérieux, on est comme ça dans l'incertitude totale, c'est la seule démarche possible, puisque c'est un conte, donc il faut adopter le ton du conte,
oui.
Et le ton du conte c'est souvent lyrique, onirique...
Alors, la question que je me suis posée, moi, évidemment, quand vous lisant, on fait référence à des tas de choses actuelles, passées, mais actuelles aussi, et peut-être futures, oui. Comment identifier le mal? Vous savez, j'ai pensé à cette image des moustiques tigres qui envahissent notre ville de Toulouse actuellement. Partout. Bon, eh bien, parmi eux, il y en a qui transportent la chikungunya et la dengue. Et comment les détecter, cela? Voilà. Et je me dis, comment détecter ceux qui apportent le mal, ceux qui apportent, qui sont dangereux?
On ne le sait pas. C'est très difficile. Regardez dans la vie de tous les jours, notre côté criminel de la vie, il faut des institutions très complexes et des démarches très, très longues et très complexes pour qualifier quelque chose. Voilà, vous passez dans la rue, vous voyez un bonhomme avec un pistolet à la main, qui fume, à ses pieds, une victime qui baigne dans son sang. Autour des témoins qui disent on l'a vu tirer sur la personne, il l'a tué. Lui-même, cette personne elle-même, avoue, dit oui, je l'ai tué pour telle raison. Malgré tout cela, la France, la justice le considère comme présumé coupable.
Oui, c'est vrai que ce vocabulaire est étonnant. Oui.
Il faut enquêter et aller aussi loin que possible pour savoir. Et souvent, on découvre que cette personne, ce faisceau qui l'accable, ce faisceau de preuves qui l'accable, est innocente, parce qu'on va découvrir qu'elle a été manipulée, qu'elle a été droguée, ou qu'on a enlevé sa famille, ses enfants, et on lui dit « tu vas commettre ce crime, sinon tu auras ta femme et tes enfants », et qui va donc sortir de prison, et voilà. Donc,
vous pensez que nous ne sommes pas assez... que la justice n'est pas ainsi faite.
On n'est pas assez outillé à l'échelle individuelle, on ne l'est pas du tout. À l'échelle collective, on a quelques institutions, quelques instruments pour juger des choses. Est-ce qu'il fait chaud? Je ne sais pas, certains pourraient dire...
Tout est flou.
Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, quand on parle de température, on donne toujours deux chiffres. On dit fait 30 degrés, mais ressenti 35.
Le ressenti, oui, pour le froid également.
Voilà.
Oui. Mais vous dites, par exemple, la liberté est un tout, son cœur est la fierté d'être responsable de soi et de sa famille.
Oui.
Bon, je me suis dit, mais voilà, on arrive à la mentalité des trappeurs de l'Alaska, qui ont la gâchette facile quand même.
Ça, c'est l'autre côté animal, je veux dire.
Eh oui, voilà,
L'animal, la tigresse, allez, approcher des petits tigrons lorsque la maman est là. Impossible. Et même pour une chatte, c'est pas possible de toucher ses petits chatons. Elle est prête à... Bon, donc, ça, c'est l'autre côté animal. Notre premier devoir, évidemment, c'est de préserver sa propre vie. Et celle de sa famille immédiate, sa famille immédiate. Bon, le reste, on l'a confié par délégation à une structure qu'on a inventée, comme ça, de diverses manières, qu'on appelle l'État.
Mais enfin, Boualem Sansal, on ne peut pas faire justice soi-même.
Il faut éviter, évidemment. Quand on est dans une société organisée, on fait justice soi-même en allant porter plainte.
Et c'est vrai que c'est à la justice d'agir. Absolument. Et d'agir d'une manière efficace et prompte.
Voilà. Et si on est honnête, c'est parce que je me dis, moi, je n'ai pas la possibilité d'enquêter pour qualifier son acte. Est-ce que réellement il est responsable? Jusqu'à quel degré? Je ne sais pas. Donc je vais agir sur le coup des nerfs.
Oui, et puis on n'a pas l'objectivité nécessaire.
On n'a pas l'objectivité. Donc quand on est honnête avec soi-même, on dit bon, il me semble qu'il m'a nui, et je vais confier, me plaindre à la justice, elle va enquêter. Et elle dira si effectivement il m'a nui.
Sauf que vous dites que la justice a failli.
De plus en plus, on est de plus en plus nombreux, la justice est de plus en plus pauvre, elle n'a pas beaucoup de moyens, et donc, elle fait l'impasse sur beaucoup de choses.
Oui.
Et c'est très dangereux, parce que là, que font les citoyens? Ils se disent, si l'État a failli, je vais exercer la justice moi-même. Mmh. Voilà.
Ou... En même temps, vous dites, à force d'avoir l'essentiel et le superflu, les gens se sont épuisés, l'ennui les a dévorés. Vous pensez que c'est émollient ce confort que nous avons ?
Je le pense. Nous le ressentons d'ailleurs tous à titre individuel. Quand on passe un week-end entier à flâner dans la maison, allongé à grignoter toute la journée.
Alors, Boualem Sansal, je vous arrête, parce qu'on peut aimer avoir cette paix que nous avons, grosso modo, quand même, hein, en Europe, dans nos pays, en France, parlons de la France, et faire des choses, avoir des activités, avoir des passions pour différentes choses. Mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, nous avons perdu... Vous dites à un moment donné, on ne sait pas ce que c'est que la guerre. Eh bien, je me suis dit, tant mieux, parce que nos parents l'ont connu, les grands-parents surtout.
Oui, mais tant qu'il n'y a pas de guerre, oui, c'est vrai. On est là, bon, tout se passe
tant
bien.
Tant mieux, il vaut mieux être paisible.
Voilà,
quand même.
C'est quand on est dans la paix qu'on prépare la guerre.
Oui, ça c'est une phrase bien connue.
Par bel homme.
Oui, oui. Mais
donc il faut...
à un moment donné, alors je ne sais plus si c'est Out ou l'autre personne, mais on laissera au lecteur le soin de comprendre. Out dit que finalement, sur le pacifisme, les pacifistes, elle est très dure.
Mmh. Oui, oui, c'est vrai.
Mmh. Et vous aussi.
Aussi, oui, oui, oui.
Il
y a pacifiste et pacifiste, évidemment. Donc... regardez dans la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, pas seulement en Europe, mais un peu partout. On a été négligents, on a été des parents négligents, on a été des citoyens négligents, parce que la mollesse, parce qu'on remet toujours à demain, parce qu'on nous a inculqué une sorte d'optimisme béat, etc.
Et on a remis pendant tout en temps, question aussi.
Pendant ce temps, on se retrouve dans la situation d'Erlingen, encerclé par des choses qui sont rentrées par les fenêtres, par la porte, des idées subversives, de la subversion, des comportements absurdes, des trafiquants de toutes sortes. Et maintenant, on est face à ce faisceau de choses, on est quasiment, on ne sait pas comment faire.
Comment faire, ouais.
Voilà, si on s'était habitué à combattre au fur et à mesure, ben on serait déjà très aguerri, tout ceci ne serait pas arrivé. Parce que très tôt, on aurait réagi. Plus on tarde, plus on est condamné à agir violemment.
Alors,
tôt on commence, plus on réagit de manière intelligente.
D'accord. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Je ne sais pas si nous aurons tout le temps nécessaire. Et nous faisons une pause musicale.
Bon, d'accord.
And my next number, I'd like to dedicate to the late Big Bill Broomsey. Started me out to recording. Paul, I feel so good. I've got a letter came to me by mail. My baby says she's coming home. Hope that she don't fail. You know I feel so good. Yes, I feel so good. I just feel so good, Lord, I feel like born a jack.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien. Voyez, même hors antenne, nous discutions avec Boualem Sansal, qui nous parle de son nouveau roman, Le Train d'Erlingen, qui n'est pas qu'un roman, il est bien autre chose. Train d'Erlingen, sous-titré, ou La métamorphose de Dieu. Il s'est métamorphosé en quoi, Dieu, là, Boualem Sansal ?
Non, c'est que quand on regarde la relation de Dieu avec l'humanité, il y a quatre messages différents. Il y a 4000 ans, Dieu parle à Abraham et fait une alliance avec lui. Alliance, donc ça veut dire qu'il a traité avec un homme qui serait son égal. On fait alliance avec son égal, pas avec son esclave. Donc c'est une relation très, très intéressante. Dieu a regardé l'homme à titre individuel comme un égal et fait acte alliance avec lui. 6 siècles ou 1000 ans plus tard, Dieu revient sur terre, parle à Moïse, il ne lui dit rien, il lui donne les tables de la loi. On est dans une relation, c'est la loi. Voilà, c'est comme ça, il faut, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu, point. Donc, le côté divin de la chose a disparu. Un juge est venu donner...
ses lois.
Voilà, ses lois. Il revient 6 ou 7 siècles plus tard, c'est un Dieu d'amour et de bonté. Si quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Si te gifle, donne-lui l'autre. C'est tout autre chose, là. On est vraiment... Dieu, c'est comme s'il était... Il est tombé amoureux de sa créature. Et c'est, voilà, et donc ça a créé... Ben, voilà, le...
et oui, puis... mais reconnaissez quand même que Jésus fait parler de lui depuis très très longtemps.
Oui, absolument. Oui.
Ben,
oui.
Donc c'est que quand même ses propos ont porté.
Ah mais Jésus est un personnage absolument inouï.
Ah oui, je suis bien d'accord avec vous.
Et je continue, et Dieu revient 6 siècles plus tard, et là c'est, on revient à la loi et au châtiment. Voilà, quand vous lisez le Coran, c'est un recueil de juridique, mais avec, comme dans toutes les lois, si vous faites ceci,
vous aurez
6 mois de prison plus 15 000 euros d'amende. Le Coran, c'est ça, c'est un...
Oui, les sourates sont sévères. Bon. Hein,
alors, question pour des gens qui apparaîtraient là maintenant, ils disent, bah, qui c'est Dieu ? C'est celui-là, celui-ci ou celui ? Alors, on a une offre. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, bon, l'amour, c'est bien et tout ça, mais je préfère l'ordre. Et l'homme étant ce qu'il est, ignorant jusqu'au bout, ça doit être ordre et châtiment. Ou considérant, bon, l'ordre, l'homme est désordonné, etc., etc., mais c'est quand même quelqu'un qui raisonne. Donc, c'est la loi. Et c'est à lui de raisonner de quelle façon il faut appliquer la loi, et dans quel cas c'est le judaïsme.
C'est bien ce qui nous déchire actuellement en France, du moins, et puis dans d'autres pays européens.
Cette question-là
se pose
aujourd'hui en
Europe. Ouais.
Voilà. Et comme toujours...
Et oui, mais comment Boualem Sansal, comment trancher par rapport à ça ? Comment faire ? Alors, je vais faire comme les personnages de la population d'Erlingen. Comment faire ? Parce que parlons de l'islamisme, par exemple. Bon, et vous êtes le premier à le savoir, je ne vais plus rien vous apprendre. La majorité des musulmans ne sont pas des islamistes.
Oui, oui, non, bien sûr. Mais l'islamisme est né. Faut pas. Les gens, donc chacun traite ça en conscience ses propres problèmes. Donc il peut dire, je préfère ne pas croire, hein, ou je vais me convertir à une autre religion. C'est ce qui se fait beaucoup. Donc c'est des démarches individuelles. J'ai perdu le fil de mon idée là.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est difficile de faire la part des choses, de reconnaître, de voir, dire, être sévère, être bon, vigilant, oui, mais après agir comment, sans être dans l'excès, ce que l'on peut voir actuellement aussi, hein, et ne pas agir, effectivement, c'est prêter le flanc à quelque chose d'extrêmement dangereux.
À l'échelle individuelle, c'est la question est simple. Donc chacun agit. Hein. Nous agissons tous. Voilà, ou là, on fait son choix, on se convertit à ça, ou on s'éloigne de ces questions-là, on préfère croire en la science, etc. etc. Donc à l'échelle individuelle, il n'y a pas beaucoup de soucis. C'est à l'échelle collective, parce que le problème n'est plus de croire. Le problème est central, c'est de préserver l'ordre dans la société. Donc il faut des conciliations, il faut des systèmes qui permettent, malgré tout, de maintenir la structure de la société. Sinon, elle vole en éclats dans des guerres civiles abominables.
Et oui. Mais voilà. En même temps, Boualem Sansal, nous sommes construits maintenant, faits d'une forme d'humanisme. Et je me dis, sans vouloir que ce soit ostentatoire, mais enfin, on est arrivé peut-être à un point, justement, d'humanisme qui est un peu... dont on doit être fier aussi.
Ah oui.
Non ?
Oui, écoutez, moi, en ce moment, qui travaille beaucoup sur Montaigne et qui serait donc presque le père de l'humanisme, tout le premier. Pour peut-être les 3/4 de la population mondiale, l'humanisme est une aberration.
Oui.
C'est une aberration, parce que pour eux, le centre du monde n'est pas l'homme, mais Dieu. Ou tout simplement le néant.
Oui, mais en même temps, nous, quand on parle de Dieu, c'est la parole de Jésus que nous mettons en avant.
Ah oui, oui.
Et ben Jésus voilà. Parle de l'homme. Hein,
oui, mais c'est ça. Donc,
aimez les hommes comme vous m'aimez, ou aimez-moi comme vous aimez les hommes.
Voilà, hein. Voilà. Et donc...
Oui.
Oui,
alors voilà, le problème, c'est que moi, je serais comme un membre de la population d'Erlingen, je dirais, mais quoi faire? Quoi faire?
Eh bien, si, dans le roman, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de solutions. Hein, donc, les édiles de la ville que répondent à la question. voilà, on va se carapater.
Oui, alors voilà, on va assister à des choses terribles.
Voilà. Ah ben oui. Voilà,
c'est-à-dire parce que le sauf qui peut.
Voilà,
partout.
C'est les solutions individuelles. Oui. Oui. C'est-à-dire, bon, nous, on a. Ben, voilà, très bien, on va partir. Et on abandonne, on quitte le bateau qui coule.
Oui.
C'est plus notre problème.
Oui. Et puis, ça dénote, oui, il y a un certain cynisme, on le sait que ça existe.
C'est la réalité.
Oui.
Ou bien comme Hutte qui dit
il faut combattre.
Il faut combattre, il faut mobiliser la population, etc. etc. Même chez les édiles, bah, ils arrivent à l'idée qu'il faut fuir et quitter le navire. Mais à un moment donné, ils se disent quand même, on va recruter dans les banlieues.
Oui, des jeunes.
Des jeunes, ils vont se battre pour nous, donc des mercenaires, en quelque sorte.
Voilà, oui.
Et ainsi de suite. Donc, et puis, il y a un passage où on voit que dans la ville, il y a des meetings partout, des gens qui courent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on fait? Ils cherchent et en fait, ils créent la panique autour d'eux. Et puis certains attendent tout simplement le train, partant de l'idée que... mais ça, l'humanité est ainsi faite. Hein. Les hommes, soit ils trouvent le secours en eux-mêmes, soit ils appellent au secours, que le secours serait ailleurs. Il viendrait de la Providence, ou il viendrait de l'État, ou il viendrait des voisins. Et donc, voilà, là, ils attendent un secours venant du chef-lieu du Lander. Et qui leur envoie un train. Et le secours, c'est pas évident qu'ils viennent. Voilà.
En vous lisant, on se rend compte que finalement, on parlait tout à l'heure d'humanisme, et cet humanisme dont nous parlons, de même que la démocratie, on sait que c'est extrêmement vulnérable.
Très.
En même temps, est-ce qu'on pourrait quand même être d'accord avec le chef d'État de ce grand pays occidental qui ne fait pas preuve vraiment d'humanisme, actuellement. Bon, je pense au président des États-Unis.
Ouais, Trump.
Les
gouvernants, ces questions les laissent froid. Elles les dérangent beaucoup, parce qu'eux, ils gouvernent.
Oui.
Donc, ils ont à régler des problèmes concrets. Et c'est l'égoïsme à plein.
Oui, mais alors,
les nations ne le pensent qu'à elles-mêmes.
J'ai entendu quelqu'un qui disait qu'à partir du moment où un pays ne fonctionnait plus qu'avec des problèmes économiques, il perdait son âme et qu'il devenait décadent.
Oui, quelque part, c'est vrai. Moi, je suis en tant qu'économiste et en tant que, pendant très longtemps... prof d'économie et haut fonctionnaire, je sais bien que ce que les peuples attendent de l'administration, du pouvoir, c'est des solutions concrètes. Et on ne veut pas savoir...
ce qui se passe à côté.
Ce qui se passe à côté. Oui. C'est-à-dire que si... Bah, voilà, le gouvernement nous donne à manger, mais on sait... Peut-être que cette nourriture, il l'a volée au pays à côté. Mais on ne veut pas le savoir. L'essentiel, c'est que nous ayons notre pain quotidien. Et nous allons remercier Dieu et l'État pour cela, mais on ne sait pas d'où vient ce pain.
Oui.
Et voilà. Oui. Et c'est aujourd'hui, à cause de, à la fois parce qu'on est surinformé, mais c'est une fausse information, c'est parce que bon, on commence à être nombreux sur Terre et les ressources deviennent de plus en plus rares. Donc, on sait bien que les ressources viennent d'une exploitation ou d'une surexploitation de quelqu'un d'autre. Si les Américains sont riches, c'est parce qu'ils ont pris de l'argent aux Africains par l'esclavage. Dans beaucoup de pays, en achetant leur pétrole à 2 euros alors qu'ils ne le payent pas à leur juste prix. Les Européens qui... qui achètent le cacao au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et qu'ils sous-payent.
Maintenant, le chinois en Afrique également.
Et maintenant, les chinois. Donc, on voit bien que tout l'argent qui circule dans le monde a une source. Bah, la source, elle n'est pas très... Elles ne sont pas très bons.
Oui. Oui, alors, tout à l'heure, vous parliez de la France, pays d'immigration, qui s'est composée. Alors, effectivement,
de cette façon-là, oui.
Une dame me disait qu'elle était professeure et que dans sa classe, elle m'a dit, c'était étonnant, il y avait des gens d'origine espagnole, d'Afrique du Nord, d'Afrique, d'Italie, des Polonais également. Elle me dit, bon, et puis finalement, tout se passait bien à une époque, tout se passait bien. Il y avait un pot commun. Bon, là, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que maintenant, face à l'immigration, vous, quelle est votre position? Parce que, alors on va dire, ah oui, les bien-pensants, oui, évidemment. Mm-hmm. Moi, j'ai pas envie que devant moi, un enfant un adulte, pourquoi des enfants, un adulte même, se noie sans tendre la main. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là aussi?
Alors, on peut penser effectivement que l'immigration, avant, ça s'est passé. Si on regarde l'immigration relativement récente en Europe. Mais l'immigration du 18e et 19e siècle, elle a mené à quoi? À l'extermination des Indiens, à l'esclavage, à la colonisation, et à l'expropriation d'eux. Voilà.
Vous voulez dire qu'on fait entrer les couteaux dans...
Ça a mené à cela. Et puis, bon, disons, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, les colonisations ont aussi fini, donc on est sorti de cette tranche d'histoire. L'immigration, elle était simplement économique et transitoire. C'est-à-dire qu'on faisait venir des ouvriers dans l'agriculture pour faire la saison.
Oui.
Ils viennent faire les vendanges et repartent chez eux.
Oui.
Et puis, qui travaillent dans les mines, ensuite ils sont passés à l'industrie.
Qui se sont intégrés.
Non.
Les Polonais, oui.
Non, personne. Parce que, donc on est passé d'une immigration qui venait surtout pour l'agriculture.
Oui.
C'est là que on commençait à manquer les bras, bien que la mécanisation a pu pallier la chose. Mais à un moment donné, dans l'industrie, l'automobile, on avait besoin d'une autre catégorie de... C'est-à-dire qu'il faut des gens permanents. Pourquoi permanents? Parce que moi, je reçois quelqu'un, je le forme pour travailler à la chaîne. Donc j'investis de l'argent.
Oui, ça coûte cher.
Si au bout de 3 mois, il me dit, bon patron, moi je rentre chez moi, ma femme est malade, c'est le ramadan, c'est ceci, ça désorganise le... Et donc, c'est le patronat qui a fait pression sur le gouvernement,
pour,
en disant,
pour faire venir.
On a un problème, voilà. Donc, comment maintenir ces travailleurs qui sont bien, qu'on a formés, ils travaillent bien, ils sont gentils, ils sont compétents, ils sont sérieux, mais voilà, ils sont instables. Ah, solution, faisons venir leur famille, comme ça il n'a plus à dire j'y vais parce que ma femme est malade, parce que ceci, parce que cela. Et ensuite, bon, les enfants, et on s'est trouvé avec le père qui travaille à l'usine, parfaitement intégré, à intégration économique. Mmh. Il est à l'usine. Mmh. Là, il est intégré. Sa femme est à la maison. Aucun programme d'intégration. Les femmes entre elles reconstituent le village.
Ouais.
Et les enfants sont à l'école. Mmh. C'est déjà des petits Français. Mmh. Ils ne parlent d'ailleurs plus que français. Mmh. Et ils sont avec un siècle d'avance sur le père et 2 siècles en avance sur la maman.
Ouais.
Comment voulez-vous que ça fonctionne? Donc on a... à l'époque, on a mal compris le processus d'intégration.
Oui.
Ça a fait dire à certains, intégrer des individus, c'est facile. Intégrer une civilisation, c'est pas possible. Voilà, parce qu'à partir du moment où il y a l'homme, sa femme, ses enfants, puis ensuite, il faut venir le cousin, la tante, la grand-mère.
C'est
une civilisation.
Oui, c'est une civilisation, c'est ça.
Qu'il faut intégrer.
Oui. Qui vient d'Afrique. Oui.
Alors, avec les Polonais, les Italiens, la question ne s'est pas posée. On n'a pas intégré une civilisation. Oui. Ils sont dans cette civilisation.
Oui, c'est vrai.
On l'intègre en tant qu'ouvrier parce qu'il était là-bas dans les Pouilles en Italie. Oui. Il n'a jamais travaillé dans une chaîne moderne. La France, par rapport à l'Italie, est un pays hyper moderne. Il faut le former. Mais c'est tout. Quand sa femme arrive, elle-même, très vite, elle s'intègre.
Bien sûr.
Et les enfants s'intègrent dès qu'ils rentrent à l'école.
Oui.
C'est un autre problème.
Bien sûr.
Avez-vous un jour entendu dire que en Europe, nous devons intégrer une nouvelle civilisation à la nôtre. Jamais.
Non.
Tant qu'on ne le pense pas sous cet angle-là, eh ben on va traîner ces problèmes-là.
Et vous pensez, vous voyez une solution ?
Il y a des solutions à tout.
Parce qu'actuellement, par exemple, on présente un programme pour les enfants scolarisés qui paraît plein de bonne volonté. Est-ce que ça va marcher ? On n'en sait rien. Hein. Mais en mettant les bouchées doubles, en mettant des petits effectifs dans les classes pour... Alors, c'est pour la langue, déjà.
Oui. Hein, ouais,
bon, mais, peut-être, mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ?
Ben, c'est-à-dire que... alors là, c'est...
c'est un peu compliqué.
C'est compliqué parce qu'on change d'échelle. Intégrer quelques milliers de personnes, bon, si on a beaucoup d'argent et on se mobilise, on y arrive, quoi.
Ouais. Hein. Mais là, c'est mais plus quelques milliers.
Voilà, quand c'est des millions qui, eux-mêmes... ont pris conscience de leur propre destin et refusent l'intégration. Ils disent, mais pourquoi je vais m'intégrer à lui ?
C'est pas parce que... Il y a une rancœur.
Oui, bien sûr. Il dit, moi, je suis né ici. Je n'ai pas à m'intégrer. C'est mon pays. C'est comme moi. Moi, je suis algérien. Je suis né en Algérie. J'ai toujours vécu en Algérie. Imaginez qu'on vienne me dire, il faut que tu t'intègres à l'Algérie. Pardon ? Mais je suis né ici.
Oui, mais en même temps, en n'acceptant pas forcément ce qui leur est offert.
Oui, alors là, parce que moi, à mon avis, il y a, derrière ça, il y a des organisations qui empêchent cela. Par exemple, les gouvernements du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, ben, gèrent leur communauté. Bien qu'ils soient tous français, normalement, ils devraient être gérés que par leur gouvernement français. Mais le Maroc, le gouvernement marocain, le gouvernement algérien, le tunisien, l'égyptien, se sentent le devoir, parce que musulmans, parce que leurs parents sont encore au pays, ils se sentent le devoir de gérer ça, et ils font ce que fait Erdogan très officiellement, refuser de vous intégrer. Vous êtes turc, vous êtes musulman.
Ouais.
Et si quelqu'un doit s'intégrer, c'est eux.
Oui, c'est ça.
À l'islam.
Ouais.
L'islam ne recule pas. L'islam est la dernière religion. Son destin est de gouverner le monde. C'est ça l'ordre de Dieu. Sinon, on en serait resté au christianisme ou au judaïsme. S'il a envoyé un nouveau prophète, c'est bien parce que c'est, comme le pensent les musulmans, c'est le sceau de la révélation, la fin des révélations. Et c'est le discours. Le roi du Maroc et sultan, bon, ben, à la limite, c'est secondaire, mais le commandeur des croyants.
Oui.
Donc il est quelque part...
Mais il interfère comment auprès des Marocains devenus français ?
On s'occupe de sa communauté, à travers la mosquée, à travers un discours qui est tenu. C'est franco-marocain ou franco-algérien quand ils rentrent au pays. Donc on leur rappelle qu'avant tout, ils sont algériens, ils sont marocains, ils sont musulmans. Intégrez-vous, mais pas au-delà. Pas jusqu'à... Seulement pour des questions pratiques. C'est comme qui disait ça, je l'ai lu hier. Il disait français pour... voilà, français tous les jours, algérien pour l'éternité.
D'accord. Oui.
Voilà.
Oui.
Mais ça, dans tous les pays émetteurs d'émigration nombreuse, les gouvernements disent attends, mais on... voilà. Et puis ça, et puis bon, ben, s'ajoute à cela des considérations politiques et politiciennes. C'est une question qui permet des négociations. Donc ça permet au gouvernement du Sud de faire pression sur. Sur l'Europe, vous devez nous aider. Vous voulez que l'immigration cesse ? Eh bien, après, donnez-nous de l'argent pour qu'on développe le travail chez nous. Et ainsi de suite. Vous voulez que les jeunes que vous avez chez vous se comportent bien ? Ben d'accord. Ben, enseignez-leur l'arabe, laissez-les construire des mosquées, et ils vont être heureux.
Oui, c'est une manière d'influer évidemment sur nos gouvernants. Nous prêchons par ignorance aussi.
Par ignorance, par naïveté, par et puis par tout simplement parce que vous n'avez pas le choix.
Oui.
Quel choix, oui. Quel autre choix avez-vous ces nouveaux Français sont là.
Absolument.
Ils sont là. Oui. Et oui. Donc ils ne partiront pas. Il n'y a aucune raison. Ils sont nés ici. Ça devient leur terre. Mais ils voient le destin de cette terre différemment. Ils le voient. Mmh. Un grand responsable islamiste, islamique, de ces mouvements un peu comme ça, très militant, disait, vous ne pouvez pas nous empêcher de rêver qu'un jour la France sera musulmane. Mmh. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez peut-être interdire la construction de mosquées et tout ça, mais vous ne pouvez pas m'interdire de penser qu'un jour la France sera un pays musulman.
Oui, oui. Oui, alors évidemment, en vous écoutant, on se dit que faire. À un moment donné, vous faites référence, je crois, à Michel Houellebecq, à Giorgio pour Les Immortels d'Agapia, que nous sommes nombreux sans doute à avoir lu, où effectivement on se trouve dans une société idyllique au départ. Et puis vous parlez d'Henri David Thoreau, qui est un philosophe qui disait « Les hommes croient ce qu'ils voient, alors donnez-leur à voir ». Qu'est-ce qu'il faut donner à voir maintenant ?
Oui, parce que c'est quelque chose de très naturel. À un moment donné, il faut matérialiser la croyance, quoi. Donc, il faut un totem au centre du village. Il faut le temple avec toute sa symbolique. Parce qu'on ne doit pas lire les mystères de la vie que dans les livres. Il faut les lire sur le lapidaire, de différentes façons. Donc, forcément, il y a un envahissement de l'espace par les symboliques. Un musulman a besoin d'être dans un environnement islamisé. Ouais, il faut qu'il voit des mosquées, qu'il voit des rues sans trop de femmes, ou des femmes habillées de la manière musulmane, et que les gens se comportent d'une manière musulmane. Sinon, sa foi reste... il se sent presque un peu coupable d'être dans une relation hypocrite par rapport à son Dieu, par rapport à sa foi. Donc il a besoin de s'habiller d'une certaine manière pour dire aux autres, je suis musulman et fier de l'être.
Oui, mais en même temps, est-ce qu'il ne risque pas de déchanter? Parce que finalement, on le voit par exemple dans certains pays musulmans, chiites, soit, mais quand même, la vie, quand on l'a connue avant et puis maintenant, la vie est beaucoup moins drôle, elle est très austère, très... Ouais. Est-ce que les jeunes ne vont pas faire la différence entre ce qui peut être, ce qui peuvent vivre ailleurs? Parce que, ce que vous dites par rapport aux femmes, par rapport à cette éducation extrêmement stricte, hypocrite, hein, disons-le aussi. Hein,
et pas qu'un peu.
Ben oui, exactement. Donc... est-ce que quand même, peut-être dans un premier temps, oui, ça peut arriver, mais est-ce que ça peut perdurer ?
Mais tout à fait, parce que quand un pays passe d'une situation à une autre, disons un pays libéral comme vous citez l'Iran, sous le Shah ou la Turquie, qui sous Atatürk, qui est laïque, libre, qui ne rêvait que de s'intégrer à l'Europe, etc. etc. Et puis maintenant, il est dans un autre état. Maintenant, il est dans un univers totalement...
Alors, ils en souffrent, partie de la population, beaucoup en souffrent.
Oui. Moi, je dirais que non.
Ce sont les intellectuels,
les artistes.
Il y a une partie de la
population qui est dans la transition.
Oui, c'est ça.
Qui ont connu l'ancien système et qui entrent dans le machin. Là, eux peuvent faire des comparaisons et choisir. Ils peuvent dire, c'est formidable, finalement, c'est bien, je préfère ça. Et d'autres se disent, mais c'est pas possible, non, je veux revenir à la liberté, on faisait ce qu'on voulait, etc. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il ne reste plus de survivants de l'ancien...
Donc, tout est oublié.
Tout est oublié. Et moi, quand je raconte à des moins même de 40 ans, des gens qui sont nés après l'indépendance, donc qui ont même moins de 50 ans. Quand on leur raconte ce qu'était l'Algérie avant, ils n'y croient pas.
Ils n'y croient pas.
Quand on leur dit, tu sais, ici, il y avait un cinéma, là, il y avait 15 bars.
On entendait la musique dans
la rue. Musique, et là, les filles, etc. Ouais. Non, mais c'est quoi ? Mais tu rêves. Oui.
Alors justement, pour terminer, Boualem Sansal, le rôle de l'écrivain, hein, c'est vous aussi dans ce livre, c'est vous à travers ce livre ou à travers vos écrits. Vous dites qu'il faudrait que les artistes, que les écrivains, les poètes, les chanteurs même, interviennent davantage.
Oui, absolument. Donc, l'État, évidemment, a sa partition à jouer à travers l'école, l'éducation. Il faut des programmes beaucoup plus intelligents que ce qui est en cours aujourd'hui, et qui sont catastrophiques et qui sont pour...
Oui, on dépense
de l'argent. Beaucoup dans la cause de ce qui se passe.
Vous pensez ?
Oui.
Oui, pourquoi ?
Parce que c'est des programmes opportunistes.
Oui. Voilà, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Voilà, on reste pas sur les fondamentaux qui font l'humanisme, qui font par exemple la laïcité spécifique à la française, les gros dossiers lourds. Alors, c'est des trucs qui naviguent. Bon, aujourd'hui, il faut parler de ça. Bon, ok, un petit chapitre. On enseigne l'histoire d'une manière tout à fait ridicule. Maintenant, aujourd'hui, on dit qu'il faut enseigner le fait religieux, il faut l'enseigner. Mais c'est une question qu'il faut examiner avec beaucoup de prudence.
Mais on pourrait en parler longtemps de l'enseignement, effectivement. Il y aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, Boualem Sansal, un grand merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. J'espère que nous vous reverrons. On vous a déjà reçu. Je répète à nos auditeurs qu'il s'agit du train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu, un livre dense à lire. Oh, j'ai l'impression qu'on n'en a dit qu'une partie, finalement. Il y a beaucoup d'événements aussi et beaucoup de propos qui seraient bons de développer encore. Mais voilà, le temps qui nous est imparti s'achève. Ouais. Un grand merci.
Merci à vous. Merci.
À bientôt.
Merci. À bientôt.